Voilà donc, bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Nous vous rappelons que nous sommes le vendredi le 12 octobre 2012, bien sûr, et que vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, bien sûr, avec votre émission des mouvements Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous allons consacrer cette émission au matricule 728, cette policière qui a fait les manchettes de ces derniers jours. L'agent Stéphanie Trudeau. Je vous rappelle aussi que les faits remontent au 2 octobre de ce mois, mis en lumière par Radio-Canada qui a diffusé un extrait audio et vidéo enregistré miraculeusement sur le lieu de l'événement. Alors je résume peut-être rapidement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un artiste qui habite le plateau Mont-Royal tenait la porte ouverte de son logement pour que l'un de ses amis musiciens, bien sûr, entre son matériel audio. Mais son malheur et son crime impardonnable, c'est que quelques secondes avant de tenir cette maudite porte, il avait une bière en main. Donc la policière Stéphanie Trudeau, matricule 728, avait remarqué de loin cette maudite bière tenue en main par ce citoyen qui tenait la porte. Donc elle va directement vers lui, elle l'interpelle sur un ton agressif et twill. Le monsieur répond poliment « Oui, madame, il pensait certainement qu'elle voulait une information, mais jamais, je dis bien jamais, le cirque de la bière lui venait en tête. » Alors à partir de ce moment, je vous invite à observer et suivre attentivement le comportement, l'attitude, la violence, le langage et l'esprit de nos policiers, en particulier le corps du SPVM. Alors, ce qu'il faut retenir au départ de cette émission, c'est que l'agression du matricule 728 sur un citoyen n'est pas un cas isolé, mais plutôt un cas généralisé dans les rangs de la SPVM, sauf que dans des centaines et des centaines d'autres cas similaires, les caméras, et les téléphones cellulaires étaient absent de la scène. Prenez maintenant, prenez-le comme vous voulez, filmez une partie de l'agression du matricule 728 contre un citoyen est venu par l'esprit de l'évidence, si vous voulez, ou celui des débordements, le trop plein, encore mieux, cette scène qui vous a dévoilé exactement notre inquiétude grandissante envers le comportement d'un grand nombre des agents de la SPVM en particulier. Sachez aussi, chères auditrices, chers auditeurs, que si nous avons mis sur pied cette émission de radio, une émission hebdomadaire pour dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société, c'est que nous sommes témoins directs et indirects de cette menace qui pèse sur notre sécurité, la sécurité publique. On l'avait souligné tout le long de ces émissions, la sécurité de chaque citoyen ici au Québec est menacée aussi longtemps que les politiciens et les décideurs demeurent négligents à ce niveau. Si le matricule, bien sûr, 728 était filmé cette fois et enregistré à son insu, c'est pour vous rappeler, chers auditeurs, chères auditrices, que notre cause mérite d'être une cause qui est d'ailleurs menée depuis des années sans relâche, mérite finalement d'être entendue, d'être considérée. L'abus de pouvoir est une réalité grandissante, une menace sur le territoire national du Québec. Une longue réflexion de votre part sur ce phénomène non civilisé auquel notre société malheureusement fait face avec beaucoup de difficultés. Le citoyen victime de l'abus de l'autorité n'est pas entendu, n'est pas considéré, n'est pas respecté. Le politicien en général au Québec accorde plus d'importance aux forces de l'autorité, le bras de l'État, à tort ou à raison, est toujours mieux respecté, mieux considéré, prioritaire et surtout, il passe toujours avant le citoyen. Alors, avec cet esprit, comment une société civilisée comme la nôtre pourra combattre ce phénomène de l'abus de l'autorité? Comment l'éloigner de notre espace public? Comment le ralentir pour le moins et épargner aux citoyens l'enfer de la rencontre? Alors, je viens à un incident, à cette fameuse bière qui s'est explosée dans les médias comme une bombe, pour vous rappeler l'existence de l'abus du pouvoir et de l'injustice en pleine lumière du jour, sans gêne aucune. La victime dans cette histoire tenait la porte quand la policière matricule 728 lui avait demandé sans explication préalable ton permis de conduire, ton assurance maladie. Et c'est tout à fait normal qu'une personne, même la plus ordinaire sur le marché, cherche à savoir pourquoi on lui demande de présenter son permis de conduire. Elle ne conduisait pas une voiture à ce moment-là, et encore moins sa carte d'assurance maladie ou sociale. Donc la victime pose cette question tout à fait naïve et légitime. Est-ce que je peux savoir pourquoi vous réclamez mes papiers ? Pourquoi vous me demandez mes papiers, madame ? En réalité, la victime accidentellement ignore la réalité des pouvoirs dans notre société. Elle pensait qu'elle avait le droit de connaître le motif et la raison d'une telle interrogation, et elle ne savait pas que la policière cherchait à tout prix d'accrocher un citoyen pour vider sa colère. D'ailleurs, elle le dit elle-même un peu plus tard, après son retour au poste de police, elle disait à son supérieur « Je ne l'ai pas poivré, ben j'étais sur le bord en tabarnak, j'étais sur le bord, ça m'a tenté en crise. Ben je me suis dit, si je le fais, ça va se retrouver dans les manchettes. » Elle avait tellement envie de l'asperger de poivre de Cayenne, non pas par nécessité, mais par un manque de l'abus de pouvoir. Ça devient comme une drogue et les citoyens sont des cow-boys par excellence dans cet exercice crapuleux. Alors elle disait clairement, ça m'a tenté, hein, ça m'a tenté. Ça lui tentait d'étrangler, de battre, de ridiculiser un citoyen. Autrement dit, il n'y avait aucune autre raison que celle-ci de vouloir remplir un manque, un besoin urgent et une soif de l'abus du pouvoir. Vous voyez à quel point l'abus du pouvoir devient une maladie menaçante, une agressivité gratuite et énormément inquiétante. Chère auditrice, chère auditeur, vous voyez comment l'abus de l'autorité peut être une menace, un danger à la sécurité publique. Et je vous dis même, si la victime avait remis ses papiers sans même dire un mot, rassurez-vous que la policière Stéphane Trudeau, ou d'autres, puisqu'ils sont des centaines et des centaines, ceux qui reflètent ce comportement, elle a pu trouver d'autres excuses pour tabasser sa victime. À cet instant, elle voulait et à tout prix satisfaire un besoin, j'ai dit bien, intérieur, et celui de se sentir supérieur de tous les autres. C'est une sorte de maladie contagieuse qui court dans le corps de l'autorité. Heureusement, il reste quelques-uns qui sont sains jusqu'à présent. Maintenant, parce que la victime avait osé de s'interroger sur cette interpellation, que la réponse est venue très rapidement de la part de la policière, le 728, l'usage et l'indifférence. Donc elle prend la victime, elle le saisit par le collet, et elle la jette par terre, puis elle saute sur elle, et le reste, vous le connaissez, bang, des coups de genoux, des coups de coude, des coups de poing. Vous connaissez le reste. C'est un spectacle qui est tout à fait habituel, sauf cette fois, il y a quelques images à l'insu de l'agresseur. Sinon, l'image représente exactement ce que nous connaissons par notre expérience et par les plaintes quotidiennes que nous recevons chaque jour. Et que vous devrez réaliser l'ampleur de la gravité de ce phénomène. N'importe qui entre nous a pu être dans la place de cette victime. Et nous sommes tous des potentielles victimes face à cette menace qui fait en définitive peur. Et c'est toujours les mêmes méthodes de défense qui sont appliquées une fois l'abus du pouvoir tourne au vinaigre. La formule est très simple et elle s'applique à chaque fois entrave à un agent de paix, voie de fait et intimidation. C'est de cette manière que nos braves policiers et nos agents de paix se défendent une fois la sottise est poussée à son extrémité. Puis ça fonctionne très bien devant la cour. Comme les juges eux-mêmes ne vont jamais remettre en question les accusations ou la parole d'un policier, autrement dit, quand un policier se prononce devant la cour, c'est Dieu le Père lui-même qui parle. Le témoignage d'un citoyen perd tout son poids devant l'autorité. Il est peut-être temps de croire à la version des plaignants, citoyens victimes de l'abus de l'autorité. Il est temps que notre cour de justice agisse son tir, puisqu'il y a trop de victimes dans les rangs de nos citoyens. Je vous l'ai dit, chères auditrices et chers auditeurs, et je le répète, il y a énormément d'abus de pouvoir et d'injustice dans cette société, et ce n'est pas le gouvernement qui va changer la donne. Peut-être avec ce nouveau gouvernement, il y a un petit espoir qui peut grandir à condition que vous, chères auditrices, chers auditeurs, vous manifestez un vouloir de changement. Sinon, vous êtes cuit pour le restant de votre vie et la vie d'une génération après vous. Maintenant, et en prenant toujours l'exemple du matricule 728, nous allons voir ou entendre le langage de l'abus de l'autorité, preuve bien sûr à l'appui. Le langage du matricule 728, lors de cette fausse arrestation que je vais répéter d'ailleurs, c'est le langage courant des abuseurs du pouvoir. Et vous allez voir que la policière fautive dans ce dossier avait entretenu ce langage avec son supérieur. Sans bien sûr que ce dernier le ramène à l'ordre de quelque façon, quelle que soit. Donc elle s'est permis et le supérieur n'a pas fait aucune remarque, justement parce que c'est bien le langage utilisé en certains individu qui détient le pouvoir. Quand le matricule 728 avait traité les citoyens de rats, destinés de carrés rouges, de mangeurs de merde, de trous de cul, et j'en passe, ce langage qui nous a tous choqués était habituel et même compréhensif et acceptable entre les agents de la SPVM. La policière était toute fière en disant à son supérieur qu'elle était en train d'étouffer la victime dans cette agression filmée. La policière, en toute évidence, avait utilisé une force excessive et non nécessaire, ce qui vous donne une meilleure idée sur la façon et les conditions dans lesquelles Freddy Vignova, par exemple, est mort. Vous avez aussi une autre image de la mort de Jean-Pierre Lizotte, une image de la mort de Mohamed Hanès, une image de la mort de M. Bernicaise, de Farshad, et j'en passe, la liste elle est longue. Alors, comment faire pour arrêter cette violence de l'abus de l'autorité? Une violence, chère auditrice, chère auditeur, gratuite, dans un pays dit civilisé, dans un pays où, soi-disant, les droits de la personne sont protégés. Comment faire, justement, pour guérir notre société de cette maladie contagieuse qui court comme d'électricité dans le corps de l'autorité? Comment venir en aide à ces citoyens, à ces centaines et centaines de citoyens victimes qui rêvent non pas d'une justice, parce qu'ils ont appris que la justice n'existe pas réellement, mais ils veulent au moins voir la disparition ou le ralentissement de cette menace qui prend de l'expansion chaque jour, en voyant que notre système politique est affaibli et qui n'ose pas afficher sa détermination de régler ce problème. Monsieur Marc Parrin, qui a présenté ses excuses aux victimes citoyennes de cette agression, nous a dit, et moi personnellement je le crois, que cet incident était en contradiction avec les valeurs que prend le SPVM. Nous le croyons parce qu'il n'y a aucune société, chères auditrices, chers auditeurs, civilisée ou non, qui acceptera cette violation, cette agressivité quasiment gratuite. Et nous le croyons aussi quand il disait, ou plutôt qu'il disait que les propos de l'agent Stéphanie Trudeau avaient terni l'image de son service de police. Alors quand, en vérité, l'image de la SPVM est ternie depuis très très longtemps. Les propos tenus par le matricule 728 sont inacceptables, ils ne sont pas en lien avec nos valeurs, ils sont en contradiction avec l'approche que l'on préconise. Marc Parrin avait encore une fois raison. Mais nous avons souhaité l'entendre dire qu'il est déterminé de se pencher sur cette problématique et de tenter à partir de la base de corriger cette déformation. Sinon, son discours et le discours des autres n'a aucun poids, sauf celui d'échapper au moment et à la situation cruelle actuelle. En dernière question aussi que j'aimerais poser à Marc Parrin, combien de policiers êtes-vous prêts à sacrifier pour que la sécurité et le respect du public? Peut-être demander aussi au ministre de la Sécurité publique de revoir la structure de la déontologie policière, cette institution qui présente d'énormes lacunes dans la matière et qu'elle demeure sans utilité réelle, sinon un gaspillage du fonds public. Avec vous ce matin, chère auditrice, chère auditeur, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme soi-disant qu'il fait la surveillance civile de nos institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Avec moi, habituellement, comme toujours, mon collègue Roland Cazès et j'ai Caroline aussi qui est sur le plateau et tous les deux vont réagir à ce nouveau fait. Alors je vous invite de demeurer à l'écoute après notre thème musical. Nous revenons avec le reste de cette émission. Vous êtes bien sûr sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Restez à l'écoute.
Ce c'est une émission formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé, entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis comme une apothéose, entre SS et déporté. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la lune.
Vas-y. Voilà, donc bonjour chers auditrices, chers auditeurs, vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors comme je l'ai souligné, j'ai en face de moi mon collègue Roland Cazès. Bonjour Roland.
Bonjour.
Ça va bien? Et j'ai Caroline. Bonjour Caroline, comment ça va?
Bien.
Alors vous avez suivi comme tout le monde cet événement qui est un petit peu, comme j'avais souligné, déborder un petit peu le vase. Qu'est-ce que vous êtes venue aujourd'hui nous dire, Caroline?
Ben moi, ce que je remarque, c'est que ça a l'air d'être une exception, finalement. On nous présente ça comme une exception. Et moi, j'ai l'impression, j'ai pas juste l'impression, d'après ce que moi, j'ai constaté et vécu, j'ai comme l'impression que, en fait, c'est pas une impression. Moi, je constate que ça semble être une culture.
Voilà.
Puis ça semble être quelque chose. Là, c'est parce qu'ils se sont fait prendre les culottes baissées, là, mais vraiment, là, la preuve idéale. Mais la plupart des gens ont pas ces preuves-là. Et même moi, je me demande comme moi, quand les... Quand...
La totalité des personnes, ils n'ont pas cette
non,
preuve-là.
Non, c'est ça. Puis moi, quand il est arrivé des incidents avec les policiers, j'ai remarqué que dès qu'ils sont deux, là, tout de suite, ils ont comme... Quand ils sont tout seuls, ils ont peur. Mais même quand ils sont deux, ils ont peur. Mais je veux dire, au moins, ils peuvent témoigner un pour
l'autre.
Ils ont
peur de qui, Caroline?
Ben, ils ont peur parce que quand ils sont seuls, ils ont peur. Moi, je pense que à la base, c'est des gens qui sont peureux parce que quand ils n'ont pas d'armes, quand ils n'ont pas...
Ah oui, ça, c'est vraiment... C'est
des gens qui sont peureux.
Il y a une sorte de lâcheté, vous voulez dire?
Ben, hein? C'est parce que dès qu'ils ont une arme puis dès qu'ils ont un uniforme, ben, ça leur donne une assurance.
La stature.
Tu sais, c'est comme...
Ben c'est ça l'abus de pouvoir, hein, c'est ça, hein, abuser d'un
mais
pouvoir.
C'est ça, mais normalement, quand on est dans une situation comme ça, on est supposé d'être au-dessus de tout ça. C'est-à-dire qu'on est on est supposé d'être au-dessus des insultes, on est supposé d'être au-dessus de tout ça, puis d'être là dans un rôle de moi, je viens aider les gens, je viens protéger les gens, ça semble. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on protège des membres d'un syndicat de police, on protège les petites policières, des petits policiers, on leur donne des équipements comme si ça en allait à la guerre en Irak. Je veux dire, même New York, qui est une ville extrêmement dangereuse, les policiers se promènent à pied sans veste pare-balles. Dans le sud des États-Unis, tout le monde a des armes, puis les policiers sont sans veste pare-balles parce qu'il fait tellement chaud que s'ils portaient... Fait que là, j'ai comme l'impression qu'on est rendu avec toute une gang de petits schtroumpfs de 5 pieds 2 qui ont peur, puis dès qu'il y a une intervention, ben oups, il y a 20 voitures de policiers. Puis là, je veux pas... Moi, je pense qu'il y a un problème...
Mais vous avez vu la vidéo,
mais
Caroline?
Moi, je vais dire quelque chose qui n'est pas politiquement correct, puis que les gens n'aimeront pas. Mais moi, je me demande si d'avoir des femmes dans la police, ça a été un apport si exceptionnel que ça. Parce que moi, en tant que femme, quand j'ai eu des problèmes, j'ai pas trouvé que les femmes policières m'avaient plus aidée qu'un homme policier. Puis je me suis pas sentie plus en sécurité quand je vois une petite fille qui arrive de 4 pieds 9, qui a l'air de 15 ans, qui vient chez moi. Je me sens pas plus en sécurité. Mais là, je peux dire le même discours avec un gars de 5 pieds 2. Parce que ce que ça a fait...
C'est grave
ça...
ce que vous êtes en train de dire, parce que vous voulez écarter complètement les femmes du rang de policier.
Non, moi, je parle de tous les petits et petites policières.
Ah, OK. Certains
parce
critères.
Que hein. Ça fait que en sorte qu'ils ont besoin de beaucoup plus d'effectifs, comme par exemple pour les bagarres. Puis aussi, je veux dire quelque chose, puis ça vient pas de moi, là, ça vient d'un policier qui avait appelé dans une ligne ouverte, qui avait dit que lui, évidemment sous l'anonymat, là, il avait dit que lui... Il trouvait que maintenant, c'était les notes qui comptaient. Donc, il y avait beaucoup de femmes ou de petits policiers. Là, on va pas parler de sexe, on va parler plutôt de gabarit.
Exactement.
Et que là, lui, il était toujours demandé en renfort parce qu'il était plus gros, il était plus costaud. Alors là, moi, je me pose des questions. Puis aussi, il y avait une petite policière qui avait appelé puis qui avait expliqué à la tribune. Elle avait dit, oui, mais c'est difficile, le cardio. C'est difficile, surtout si t'as pas une force musculaire. Oui. C'est difficile de garder quelqu'un, stabiliser quelqu'un. Puis ça. Alors, on le voit. On l'a vu avec Villanueva. Ouais. Je veux dire, Villanueva n'était pas un grand, gros garçon. Puis ils ont eu de la difficulté à le maîtriser. Puis quand, après ça, ils font la défense de dire « Oui, mais c'est un pas bon, c'est un délinquant, c'est un... » Oui, mais c'est ça votre job, c'est ça votre travail. Ouais. Si vous voulez pas arrêter des criminels, si vous voulez pas avoir de problème quand vous faites des interventions, changez de métier. C'est parce que là, les petites filles s'en vont là, puis ça, il y a un fond politique, il y a un fond féministe là-dedans que les filles vont comprendre si tu t'es fait violer, blablabla. Moi, je m'excuse, là, mais ces filles-là sortent du 4-5-0. La plupart ont des pères qui étaient policiers qui ont dit à leurs filles « Ben là, gars, si tu veux pas te faire violer, si tu veux pas te faire...
Il faut devenir policière.
Rien, deviens policière. Ah, ouais. Là, ils ont dit à la SQ, ils ont dit aux grands patrons, ils ont dit, bon, mais là, il faudrait faire entrer des filles puis des petites filles cute aussi pour qu'ils puissent infiltrer puis blablabla, blablabla. Bla, bla.
Ouais.
Moi, je m'excuse, là, mais... Moi, je me pose des questions.
Mais Caroline, avant de revenir avec vous, j'aimerais bien poser à Roland. Caroline a parlé de le gabarit.
Le
gabarit, là. Oui. Mais la 728, c'est un gabarit, là.
Ah oui, c'est
oui, mais c'est un gabarit, mais je m'excuse. Ah. Est-ce que assez contrôlé? Parce qu'on sait que les gens, par exemple, qui font des arts martiaux, c'est aussi une question. Quand tu fais des arts martiaux, c'est aussi le contrôle de soi-même. Alors,
bûcher. Oui, c'est ça. Mais attention, Caroline, on ne parle pas de contrôle ici du tout, là. Ça, c'est hors contrôle, là.
Mais
ça,
c'est justement.
On parle d'une vraie bête, là.
Mais c'est ça, mais peut-être qu'il devrait faire des arts martiaux, puis pas en faire un petit cours de 15 heures à Nicolette, là. Ouais. Faire un cours, puis être tout le temps... Moi, ce que je comprends pas, c'est quand François Legault parlait là, qu'il fallait mettre les professeurs à jour, puis les évaluer, puis ça. Pourquoi on fait pas la même chose avec la police? Ben, il arrête pas de demander des choses, il arrête pas d'obtenir tout ce
qui veulent des casques, des vestes anti-balles, blablabla. Oui. Mais quand on leur demande de nous protéger, ah, ben là, ils sont chez Tim Hortons, ou non, on peut pas, ah, la loi ne nous permet pas, on n'a pas assez d'effectifs, blablabla. Non, moi, je m'excuse,
mais,
là.
Mais
j'accepte
aussi,
plus ça. Puis j'accepte plus non plus le truc que c'est un métier difficile. Moi, j'étais toute seule devant des classes de 30 élèves, oui. de 120 élèves dans une journée, parce qu'on a des groupes qui se suivent. Oui. Il y a des gens là-dedans qui peuvent être dangereux, etc. Puis on est tout seul, on n'a personne pour nous protéger.
Caroline,
j'en ai un peu marre.
Je comprends. Mais Caroline, vous êtes en train de revenir sur la sélection, c'est-à-dire sur le choix.
C'est ça. C'est moi, quand j'ai écrit au ministre de la Sécurité publique, parce que j'ai écrit, j'étais insatisfaite des services que j'ai eus. Je me sentais pas en sécurité et je me sens toujours pas en sécurité avec cette police-là. Je m'excuse, mais quand je les vois travailler... Oui. J'ai un sentiment d'insécurité.
Sécurité, c'est ça qui est grave.
D'après ce que vous avez dit, là, est-ce que ce ne serait pas par hasard la fille d'un policier qui a été, en fin de compte, formée de l'ancienne méthode?
Vous parlez de 728?
Oui,
c'est une fille de policier. Hein.
Et ça a l'air d'être une fille de policier de Longueuil, chef de police de Longueuil.
Mais c'est l'information que vous nous donnez aujourd'hui.
C'est ce qu'on m'a donné comme information. Est-ce que c'est une bonne information?
Vous ne le savez pas.
Je ne sais pas, mais c'est du on dit. Ouais. Maintenant,
mais parlez-moi de l'incident.
Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Quel est le crime parce que le gars a une bouteille de bière dans les mains? Est-ce que c'est un gars, une bouteille de bière? Alors qu'on a des députés qui circulent ivres-morts. On est obligé de mettre deux personnes pour les soutenir, tellement ils sont ivres. Et puis ces gens-là, on leur fait pas le mal. Ils conduisent même des voitures, des fois, en sortant de chez Magnan ou ailleurs. Alors, moi, je comprends pas pourquoi le gars qui a une bouteille de bière, c'est un crime.
Ouais. Non, mais attention,
arrêtons de mettre le crime.
En tout cas, moi je pense qu'il faut revenir à la culture. Parce que moi, je veux pas qu'on cible juste cette personne-là. Parce que ça, c'est le jeu du SPVM. C'est le jeu de la police au Québec de dire, ah, ça, c'est un cas isolé. C'est pas vrai que c'est un cas isolé. C'est parce que là, ils ont des preuves. Ils se sont fait prendre les culottes à terre. La plupart du temps, ils ont pas de preuves. Comme moi, c'est ma parole contre la leur. Quand le policier va mentir à la cour municipale, moi, je m'excuse, mais je me sens pas en sécurité avec des policiers qui vont mentir et qui me mentent et qui se protègent entre eux. Moi, je ne peux pas me sentir en sécurité dans une ville et dans une province comme ça. Quand j'ai écrit au ministre de la Sécurité publique, je lui ai expliqué avec des exemples ce qui s'était passé, etc. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que, bon, il y a des trucs qui vont de la confidentialité, de la sécurité. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste refilé ma lettre à un adjoint de l'SQ ou de je ne sais
c'est
quoi.
C'est l'administration, oui, c'est ça.
C'est ça, qui m'a répondu qu'on avait la meilleure police puis que tout est extraordinaire. La déontologie policière est extraordinaire. C'est faux! C'est faux! Puis quand on entend Sylvie Roy, la caquiste, qui va dire que la déontologie policière, c'est comme n'importe quelle déontologie d'un autre professionnel, ça, c'est de la foutaise. Parce que la plupart des plaintes sont rejetées.
C'est pas la plupart, c'est je peux dire la totalité même.
Puis quand on va en conciliation, même s'il y avait 6 jours, 6 semaines sans salaire, avec les salaires qu'ils font, avec tous les avantages sociaux qu'ils ont, ça leur fait juste des vacances. Moi, je trouve que c'est une injustice. Ouais. C'est comment on peut avoir du respect quand tu connais leur salaire, puis encore là, on les connaît pas parce que quand on regarde sur le site web, on a juste des barèmes très...
60 000
on sait rien, on sait rien, puis on paye.
Pour
moi, je sais pas pour combien je paye pour ces gens-là. Je sais que je leur paye un fonds de pension que moi j'ai pas. Ouais. Moi, je suis allée à l'université. Je trouve qu'il y a des affaires là que. Puis moi, quand je vois une petite policière là qui fait sa tof, quand moi j'étais devant des classes tout seul, quand moi j'ai voyagé toute seule aux États-Unis sans protection, c'est des gens qui ont toujours été protégés toute leur vie. Comment ils peuvent nous protéger? Comment ils peuvent sentir ce qu'on ressent quand on vit seul, quand on prend un taxi puis qu'ils barrent les portes? Oui. Je comprends, le monsieur, il veut se faire payer, etc. Mais moi, je suis une femme, je me sens pas en sécurité. Puis là, je vais un peu digresser, pardonnez-moi, là, digresser. Mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes chauffeurs de taxi?
Exact.
Moi, je me sentirais bien en plus en sécurité quand je prends des taxis. Je ne veux pas dire que les taxis, c'est des mauvaises personnes, mais c'est juste le sentiment de sécurité. Puis moi, toute cette bullshit-là féministe, là, je commence à en avoir marre. Parce que de dire qu'on est toutes en sécurité à Montréal, que c'est une ville qui est tranquille. Si c'est une ville qui est si tranquille que ça, pourquoi vous portez une veste pare-balles? Pourquoi vous êtes 20 voitures de police pour arrêter un gars avec une bière?
Pourquoi vous avez un gun?
Parce que vous avez peur. Oui, en Angleterre, ils n'ont même pas de gun. À New York, ils n'ont même pas de veste pare-balles. Je m'excuse, mais il y a comme un problème à quelque part. Là.
Ben, c'est parce qu'on favorise la mafia. Et vous avez vu d'ailleurs les enquêtes. On a favorisé voyez, la mafia circule avec des guns, là. Attention, ils sont armés. Et puis, ils vous font exécuter n'importe quel temps, vous vous trouvez dans un bloc de béton. Moi, ce que j'essaie de dire,
mais
si vous
faites
le rapprochement avec ça, notre police, en définitive, avez-vous vu arrêter beaucoup de mafieux, vous?
Ben, là, Roland.
Avez-vous vu la police arrêter les mafieux?
Roland, avez-vous lu l'article de Foglia sur la mafia aux enfants?
Oui, oui.
Quand il dit que le gars, il a tué des policiers, puis que, tu sais, à quelque part, il l'avait peut-être mérité un peu aussi. Tu sais, c'est peut-être comme ça que la mafia est arrivée. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il y a des policiers qui ont abusé de leur pouvoir, et là, ça prenait quelqu'un pour nous défendre. Ou bien on prend le gun, ou bien on a des avocats qui nous défendent, ou bien on a quelqu'un qui nous défend. Voilà. Parce que là, il n'y a plus de choix, là. Voilà. Il va falloir qu'on s'entende. Si moi, j'ai pas de
mais Caroline,
j'ai pas
pourquoi,
de défense
Caroline,
contre ces gens-là.
Caroline, pourquoi on ne revient pas à un débat social, un débat public? Pour que les choses, peut-être il y a une possibilité que tout s'arrange.
C'est-à-dire
que, vous comprenez ce que je dis?
Comment ça va s'arranger? La seule façon que ça va s'arranger, c'est que ces gens-là soient punis.
Oui.
Quand ils font des écarts. Mais comme personne n'a des preuves, puis comme les gens n'ont pas d'argent, parce qu'ici au Québec, on n'a pas le droit, on n'a pas accès à la justice, puis que personne n'est responsable de rien, ça c'est un autre problème au Québec qui, moi, me tape ses nerfs. Mm. C'est qu'on n'a pas de responsabilité civile. On n'a pas ça. On attend de se casser la gueule, on va au ça coûte rien,
oui.
Au lieu de prévenir, au lieu de faire attention.
Oui.
Puis ça, ces syndicats-là protègent ces gens-là qui se foutent qu'on se
fasse. Mais vous revenez au problème de l'impunité.
Mais
l'impunité,
ça, c'est important.
Oui.
C'est important parce que ça change l'esprit. Si tu vas aux États-Unis, le policier te protège parce qu'il sait que si tu vas à l'hôpital, ça va te coûter 100 000 $. Fait qu'il sait que si tu déboules les escaliers, ça va te coûter 100 000 $ puis qu'il va pouvoir se faire poursuivre. Tandis qu'ici, les policiers se font poursuivre, c'est qui paye?
C'est
toi, moi et tous les autres. Quand ils vont chercher Guy Lafleur, puis qu'il menotte, puis qu'il fait le tour du monde, ben lui, il veut protéger sa réputation. Puis là, moi, je vais dire une autre affaire. En ce moment, il y a une émission à Radio-Canada qui laisse couler de l'information de la SQ. Donc, il doit avoir un deal entre les journalistes et la police. Et quand Marc Parent dit... Parce que moi, j'ai étudié en communication. Quand il dit les journalistes sont nos partenaires, moi, je trouve ça épouvantable. Parce que ça veut dire que la liberté de presse n'existe plus. Parce que là, tu as des comptes à rendre à la police. Mm-hmm. Si tu commences à couler, puis moi, je me pose des questions. Est-ce que le journaliste d'enquête existe au Québec, le vrai journaliste?
Oui.
Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui se passe?
Oui. Je veux juste poser la question peut-être à Roland. Si cette fameuse enregistrement, là, la vidéo, là, c'est pas sorti, c'était pas...
Voyez-vous, c'est que les voitures devraient avoir des caméras et des magnétophones qui enregistrent chaque intervention.
Oui.
Et normalement, ça l'est. Tout doit être enregistré.
Oui, mais ils vont prendre ce qui va faire leur affaire.
Voilà.
Ils vont couper.
Ça revient à la même chose.
Ils vont faire la même chose avec les iPhones. Si t'es tout seul, ils vont te le prendre, ils vont vider ce que t'as dedans. Voyons donc, faut pas être des innocents.
Des fois, ils font disparaître les preuves.
Mais oui, c'est clair.
Ils vous apportent une solution.
C'est clair.
Alors, comment va-t-on faire quand deux policiers se sont entendus puis disparaissent? Et menacent des fois certaines personnes, telles que le cas suivant. Le gars, oui, si vous insistez, vous voulez déposer une plainte contre la personne, on est obligé de vous arrêter. Ça, c'est une menace qu'on fait à chaque fois aux gens. Les gens ne veulent pas être arrêtés, ils sont accompagnés de leur père, de leur blonde ou quoi que ce soit. Ils ne veulent pas être arrêtés. C'est l'intimidation, c'est de la menace.
Ouais.
Je m'excuse, on n'a pas le droit de faire de menaces contre les personnes. Le respect doit être rappelé entre citoyens et policiers. Nous devons respecter les policiers.
Alors sur le mot respecter, on va juste faire une petite pause musicale et on va revenir avec le reste de notre émission aujourd'hui. Restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs.
On met le cap sur un rêve, mais la traversée est longue. Combien trépasse avant de toucher le nouveau monde? On est breton, normand, irlandais ou peu importe. On se mélange espérant vivre en paix. Grand-maman dit même qu'on a du sang amérindien. Je me demande si on a plus dans nos veines ou sur nos mains. On fait une guerre, on la perd, je me sens trahi. Comme un flot rejeté par sa mère patrie, mes nouveaux maîtres m'exploitent. Je commence à être écœuré, je m'en remets à Dieu, mais entre nous deux, il y a monsieur le curé. Chaque jour, je laboure une terre qui m'appartenait. Chaque nuit, je rêve de violer leur accord de paix. Ma fierté est à poil et des mains sales la tripote. Je prends les armes en rejoignant les patriotes, mais pendant qu'on pend mes chefs au pied du courant, ma maison brûle sur les rives de Richelieu rouge sang. On m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens, pourquoi jamais je me suis battu pour rien. Parce qu'on m'a volé, volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens, je me souviens. Je voudrais grimper la montagne, mais y'en a pas de facile quand ta langue t'empêche de sortir du pas de la ville. Fait que je me bords le dos dans leurs vieilles usines, et la reine récolte le miel que les quêtes butinent. Moi je mets la table, je suis remercié que par des miettes. Je prends des pales pour leur empire sur les plages de Dieppe. Quand qu'une voix mondiale se lève comme un souffle d'après-guerre, elle dit qu'elle veut sa liberté, puis qu'aucune arme la ferait taire. Sur toute la terre, les rebelles montent le ton, mais plus les idées sont belles, moins les méthodes le sont. Moi je reste tranquille, mais pense pas que je ferme ma trappe. Je manifeste trempé jusqu'aux os sous une pluie de matraque. Je gagne du terrain, j'ai peut-être pas tous mes droits, mais je peux presque sentir mon rêve au bout de mes doigts. On me dit tu veux ton pays, vote pour que ça dépende de toi. L'occasion se présente deux fois. On m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens, pourquoi jamais je me suis battu pour rien. Parce qu'on m'a volé ma victoire, craché sur ce que j'avais d'histoire. Mais je me souviens d'où je viens, je me souviens. M'entends pas pourquoi y'a encore des gens qui se battent, quand dans leur propre pays leur langue reste un handicap. Et si tu cherches des preuves, elles se révèlent parfois, mais la majorité du peuple est aveugle par choix. La planète tourne autour d'une seule musique, moi je refuse d'accorder ma voix avec leur pensée unique. Je veux rester qui je suis, je veux que tu restes quitté. If you don't understand me, on va devoir se quitter. Moi ma langue est sous respiration subventionnée. Je le sais, c'est pas de ta faute si on aime plus qui on est. Pour que les radios jouent du francophone, faut les pousser. Notre culture est une vieille fille que personne veut épouser. Même nous on danse avec une autre dès qu'on a la chance. Combien de Québ renient leur accent en France? Combien disent c'est pas grave, faisant pas toute une montagne. Quand depuis 1759, moi j'ai perdu mon calme et j'ai volé les Hurons et autres peuples qu'eux seuls se rappellent du nom. Abenaki, Iroquois, Micmac et Cri. Ainsi l'histoire s'écrit, les canons parlent, ceux qui en ont pas font de la place. Mais comme dirait Vino, toutes les humains sont...
Donc voilà, bonjour chers auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et mes deux collègues qui sont en face de moi, Roland Cazas et Caroline, qui réagit un petit peu à l'événement qui s'est produit.
Je suis désolée, des fois je m'emporte, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Non, mais c'est tellement correct, longtemps que je veux le dire. Puis je suis tellement tannée d'entendre les médias traditionnels dire les mêmes histoires, les mêmes mythes qui
routine.
Se répètent.
Mais n'oublie pas,
à
Caroline.
À un moment donné, ça fait du bien de fouiller. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait des journalistes qui fouillent les dossiers, qui aillent vraiment chercher de l'information. Parce que là, on a l'impression que c'est des histoires de délation, d'allégations. On va à la pêche. T'sais, on peut faire le procès de la police aussi, là. Je veux dire, on peut. Tu sais, moi, ça me dérange parce que moi, j'ai étudié en communication, ça me dérange.
Mais Caroline, n'oublie pas que c'est vraiment l'interrogation maintenant du public. Hein. Le public, il a la même interrogation que vous.
Oui, mais hier, j'écoutais TVA, puis ils en ont parlé 5 minutes, puis ils ont montré le chef de police qui dit non, bon, OK, c'est correct. Mais là, c'est parce qu'on a une culotte baissée, on se fait prendre avec une preuve qui est, tu sais, je veux dire, à la limite.
Ça, on l'avait dit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il devrait être filmé et enregistré à chaque intervention. Et qu'ils ne puissent pas avoir accès pour détruire les preuves, parce qu'ils détruisent les preuves à chaque fois. Dans les postes de police, quand ils arrêtent quelqu'un, ils peuvent prendre la bande magnétique et puis la rectifier. Moi, ce que je veux dire...
Puis ils témoignent l'un pour l'autre.
Voilà. Et puis ils se mentent entre eux, même, presque, des fois. Des fois, ils disent même pas la même vérité.
C'est pour ça qu'ils se marient entre eux, d'ailleurs, parce qu'ils se racontent des mensonges entre eux. C'est leur culture, alors...
Oui, mais c'est pas drôle.
Non, c'est pas drôle du tout. Non, c'est pas drôle.
Mais Caroline, je veux juste dire, c'est vrai que nous sommes tous d'accord, depuis des années, que la menace, elle est là, que l'abus de l'autorité, de l'injustice et tout, elles sont présentes quasiment au quotidien. Mais est-ce qu'il y a-t-il, je pose toujours la question, pour les solutions, comment voulez-vous, comment pouvons-nous réellement sortir de cette crise-là, de cette problématique-là, moi, selon vous?
Bon, mais là, vous me posez la question comme si j'étais une experte. Mais moi, je suis juste une citoyenne. Hein, ben, toujours, je suis juste une citoyenne.
Ouais. Alors, moi, j'ai une solution. Mais...
Vas-y, on va t'entendre long.
J'ai une solution. Chaque fois qu'un policier débarque et abuse des droits et qu'il ne respecte pas le citoyen, il ne doit plus faire partie du syndicat. Pour que le syndicat soit trustable, pour que le syndicat, qu'on ait confiance au syndicat, je m'excuse de l'anglicisme, il faut absolument que le policier qui agit avec brutalité, ce n'est plus un policier, il ne doit pas être syndiqué. Oui. On doit le sortir du syndicat et l'avertir. Okay. À la prochaine infraction, c'est dehors.
Okay. Moi, je ferais ça en amont. Moi, je ferais plus comme... Là, ce qu'ils essayent de faire aussi, la police et du communautaire avec les petits jeunes, blablabla. Moi, ça, je trouve pas que c'est une si bonne idée que ça. Moi, je trouve que de faire de la prévention sur le terrain, de bâtir un lien de confiance avec la population, que ce soit n'importe qui, de n'importe quel âge, de n'importe quelle ethnie, de n'importe quel niveau social, bâtir un lien de confiance avec les gens. Puis ces gens, ça, je veux parler aussi de ça, leur formation, la sélection. Moi, j'ai des problèmes avec ça. Puis c'est ce que j'avais écrit au ministre de la Sécurité publique. Ouais. Parce que c'est des gens qui viennent du 4-5-0, qui ont toujours été dans la ouate, dans des belles petites maisons. Ils partent de chez eux, ils vont dans la police, ils se marient, ils ont des petites maisons. C'est des gens qui n'ont pas de vécu. Ils ont un revolver à 18 ans, 20 ans, je ne sais pas. C'est très jeune, là. Puis, je veux dire, ils n'ont pas beaucoup de vécu. Ils ont un petit test psychométrique. Moi, j'ai déjà posé la question à un psychologue industriel. Est-ce que c'est bon, vos tests psychométriques? Parce que là, on commence à voir que ça déborde. Mm-hmm. Fait qu'il y a plein de questions comme ça.
Mais Carlos, c'est important. Si vous revenez sur un des parmi les solutions, vous dites la sélection dès le départ de ces gens-là qui veulent devenir policiers.
Exactement.
La qualité de la formation.
Exactement. Puis que les gens n'aient pas tout de suite leur permanence. L'esprit comme dans l'enseignement, tu es à contrat, tu es suppléant. C'est là que tu vas voir si t'aimes ton métier ou pas. Puis quand t'es pas bien payé, c'est là que tu vas voir si tu vas aimer ça. Parce que comme des enseignants, il y en a plein qui démissionnent, il y en a plein qui lâchent la profession, mais des policiers, il y en a pas. Ils les mettent dans les bureaux. Je sais pas trop qu'est-ce qu'ils font avec, mais ils sortent pas de là. Caroline, moi, quand j'aime pas mon métier, j'y reste pas dans
Caroline,
ce métier-là.
Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des malades mentaux dans la police? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des drogués dans la police? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des batteurs de femmes?
J'ai posé la question quand j'ai travaillé avec des psychologues industriels, parce que j'ai travaillé avec des psychologues industriels au moment où il y a eu le policier qui avait fait des viols.
Oui.
Puis j'ai dit. Alors moi j'ai posé la question tout simplement. J'ai dit mais comment ça se fait que vous l'avez testé avec vos tests de psychométrie? Comment ça se fait qu'il est passé? Et lui il m'a répondu qu'il y avait des choses comme la schizophrénie, il y avait certaines maladies mentales qui n'étaient pas détectables. Mais il y a une autre chose aussi, c'est qu'à 18 ans quand tu sors de chez tes parents, que tu as été couvé comme un petit, puis que là tu arrives à 30 ans, puis que là tu sais ta femme t'a laissé, que tu as des frustrations, que tu as des blessures d'ego comme Monsieur Turcotte, par exemple, puis que là, t'as toujours eu tout dans ta vie parce que t'as un gun, t'as toutes les filles qui sont en pamoison devant toi parce que t'as un uniforme, puis que là, tu commences à t'apercevoir que, oups, tu vieillis, la vie, c'est plus difficile, que là, t'as pas la promotion que tu voulais, là, il y a une espèce de dépression. Fait que peut-être que ces gens-là devraient être suivis tout le long de leur carrière, évalués tout le long de leur carrière, pour savoir où est-ce qu'ils en sont, parce que c'est des gens qui ont une arme. Est-ce qu'un policier est capable de détecter une dépression chez un autre policier?
Tout à fait. Mais Caroline,
des tests de drogue aussi, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des policiers qui prennent de la drogue.
Non, parce que
c'est possible. Ben, c'est peut-être parce qu'ils disent
que c'est certain. Moi, je suis quasiment certain. Je mets ma main sur le feu.
Des
policiers qui prennent de la drogue. Mais c'est pas juste ça. Revenons un petit peu maintenant. Il faut comprendre une chose, que ces policiers-là, c'est pas des anges. C'est des civils. C'est des citoyens comme nous. Ils étaient des citoyens avant de rentrer dans ce corps-là.
Absolument.
Et quand ils arrivent à ce corps-là, ils arrivent avec leurs vices, avec tous les problèmes qu'ils ont. Et si quelqu'un qui, par exemple, un abuseur, il va continuer d'être abuseur. Vous comprenez?
Alors, c'est-à-dire,
c'est le vice, il rentre avec le vice.
On va faire aussi la part des choses. Parce que moi, j'étais dans l'enseignement. Puis, tu sais, tu peux arriver là avec, l'idée de sauver le monde, de changer le monde. Moi, quand je suis arrivée là, quand je suis allée à l'université à 20 ans, je voulais changer le monde, etc. Mais là, tu te rends compte en vieillissant que,
Tu sais, je suis sûre qu'ils arrêtent des gens puis qu'ils ressortent cinq minutes après puis qu'ils sont frustrés puis que je suis sûre qu'ils ont aussi des frustrations non, de la sûr, profession puis qu'à un moment donné, ils ont des frustrations aussi quand tu as été habitué de tout avoir dans ta vie parce que tu as un gun puis tu as un uniforme puis que là, oups, dans la vie civile, là, on commence à connaître ta personnalité, tu n'es plus tout à fait, tu sais, je parle pour des femmes ou pour des conjoints ou pour des familles puis que là, tu es moins le super-héros parce que quand tu n'as plus d'armes, quand tu n'as plus de Il y a tellement une différence, là. Moi, j'ai rencontré des policiers quand ils sont seuls, qui n'ont pas d'armes, qui n'ont pas de
d'uniforme.
Ils perdent l'arrogance, ils perdent toute leur prestance. Les filles, c'est la même chose. Quand un policier est tout seul, il est beaucoup plus gentil, il est beaucoup... Mais dès qu'il y a une fille, dès qu'il y a un partenaire, comme là, la 728, là, qu'est-ce qu'il nous dit qu'elle essayait pas d'impressionner le petit jeune policier, comme le contraire? Non, quand moi, je me suis fait traiter de mal baiser, là, c'était le gars qui voulait impressionner sa petite collègue.
Non, mais c'est pas juste ça. Hein, c'est pas juste ça. C'est...
L'expert. Ouais. Moi, il y a une chose que je veux vraiment venir au point. Lorsqu'il y a des policiers qui sont seuls, lorsqu'il y a des policiers... Mais il y a des bons policiers, attention!
Non, mais ça, c'est sûr.
On en a de très bons
policiers. Moi, en tout cas, je m'excuse, Roland, mais j'en ai pas rencontré.
Malheureusement, c'est triste. C'est ça qu'on
reproche. Parce que c'est pas juste d'être bon. Mm. C'est qu'il faut que tu sois compétent, que tu règles le problème. Moi, quand j'ai appelé le commandant, puis que j'y ai dit, arrêtez de me répondre comme un bureaucrate, puis j'étais au soleil dans une boîte téléphonique, puis je voulais qu'il trouve une solution, puis qu'il m'a raccroché la ligne au nez, puis c'est un commandant de poste de police. Ah ouais. Je ne l'ai pas envoyé chier. J'ai dit, arrêtez de me répondre comme un bureaucrate, dites-moi ce que vous comptez faire. Puis tout ce qu'il a fait, c'est me raccrocher la ligne au nez. Ouais. Comment vous voulez que moi, en tant que citoyenne, j'ai du respect?
$1,000 par année se permet de raccrocher le téléphone.
Puis quand j'ai fait une plainte en déontologie policière pour pas entacher le dossier de cette personne-là qui devait avoir un dossier extraordinaire, ils l'ont muté ailleurs.
Ils ont muté le commandant ailleurs?
Ben oui, il est rendu chef de la STM maintenant.
Ah ouais, c'est encore une promotion.
Ce qu'on ne voit jamais. Ce que l'on ne voit jamais.
Non, mais c'est quoi la solution?
C'est triste de dépenser des sommes d'argent exorbitantes et ne pas avoir du service. Et ne pas avoir des gens compréhensifs. Parce que des fois, un être humain peut paraître sourd, mais n'est pas sourd parce qu'il est malade ou parce qu'il a une crise ou parce qu'il a un problème de santé. Ouais. Alors, il faut que la personne ait un peu de psychologie.
Oui, mais comprendre. Ça, là, quand ils vont à Nicolette ou quand ils vont en technique policière, ils devraient leur dire le premier jour, là, ça sera pas de la tarte, là. Il va falloir que vous arrêtiez des gens, il va falloir que vous négociez avec des gens qui ont des problèmes de santé mentale, etc., etc. Ouais. Là, ils vont là, c'est la voie de garage, ça va vite, tu fais 3 ans de cégep, tu fais tout ce qui te disent de faire, tu fais ton petit test de psychométrie, tu as une bonne job à vie, tu as un beau fonds de pension, tu vas monter vite dans la police parce que s'ils partent à 50 ans, ça veut dire qu'il y a des postes qui se libèrent. Moi, j'entendais des policiers qui disaient, moi, mon patron, il a 10 ans de plus que moi, tu sais, j'ai 20 ans, mon patron a 30 ans. Oui. Mais c'est sûr, à 50 ans, ils sont soit dans les bureaux là, sur Saint-Urbain, à 100 quelques mille par année et plus.
Non, mais ça, c'est
beaucoup de chefs, peu d'Indiens sur le terrain. Moi, l'autre question que je me pose souvent dans l'enseignement, puis là, je fais attention à ce que je vais dire, mais souvent, ceux qui étaient directeurs puis directrices, c'était ceux qui n'étaient pas capables de contrôler des classes. Alors, est-ce que c'est pas la même chose, ceux qui sont commandants, blablabla? C'est que là, on ne sait plus où te mettre, fait que là, on te met dans un poste de direction.
Mais revenons toujours, Caroline.
Tu sais, là, je me fais l'avocat du diable. Puis une autre chose que je voulais dire, qui est très importante, c'est que si, moi, là, n'importe quel contrat que je fais, je travaille à la pige, je signe des ententes de confidentialité. Oui. Si les policiers coulent de l'information à Patrice, Lagacé, à Alain Gravel. Moi, ça me dérange. Parce que je me dis, s'il coule l'information confidentielle pour des allégations, pour des interrogatoires qui montent à la télévision avec des gens qui n'ont pas d'avocat, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions sur notre société d'État.
L'intégrité aussi.
C'est ça. Puis quand ils font des émissions pour couler Mario Hamel, puis faire le procès de Mario Hamel qui est mort... Moi, ça me dérange.
Oui, mais ils ont oublié Limoges qui était derrière, qui s'est fait tuer.
Oui.
Et qui était innocent, mais un bon père de famille, qui revenait du travail.
C'est ça.
C'est drôle qu'ils n'en parlent pas de ça. Ça, c'est une maladresse policière. Parce qu'il y a des tactiques policières. Des fois, on a rencontré des cas, je vous ai expliqué qu'il y a des tactiques policières militaires un peu, de façon à ce que le gars ne prenne pas une arme, on le fait tenir un téléphone, ainsi de suite. Surtout, c'est des armes de chasse et autres. Mais ce que j'essaye d'expliquer, c'est que des fois, Il faut dire des choses qui font des gaffes monstrueuses. Les policiers étaient 4 policiers incapables d'arrêter un itinérant qui a un couteau, un petit couteau, là, et puis qui fend des sacs de poubelle. Il faut qu'on tire une condition d'un père de famille qui est à l'arrière, qui passe avec son bicycle.
Ah, mais ça, c'est pas...
Il faut aussi donner le bénéfice du doute aussi, là, parce que je veux dire, tout le monde peut faire des erreurs professionnelles.
Ah ben, si on fait des erreurs tous les jours,
c'est que ça s'accumule. Moi, je pense que le problème il est en amont, mais d'après ce que j'ai reçu comme lettre quand j'ai écrit au ministre de la Sécurité publique, l'adjoint de SQ, je ne sais pas trop, lui m'a dit que tout était parfait, on était la meilleure police, la commission déontologie policière, c'était la meilleure, blablabla, puis c'était archi-faux. Moi, j'ai reçu un appel d'un ancien policier à déontologie policière qui m'a fait une espèce d'interrogatoire pour que je me parjure, pour me faire mentir, puis tout ça. Puis bon, moi, je connais pas ça. À un moment donné, de son ton, sa façon de parler, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes un ancien policier?
Ben, c'est sûr, oui.
Et puis là, il m'a dit oui. Il essayait de me faire perjurer, puis il me disait que j'étais une menteuse. Écoute, moi, j'ai du temps à perdre de faire des plaintes en déontologie policière. J'ai du temps à perdre. Qu'il y ait quelque chose qui sorte de ça. Je veux qu'il y ait une justice.
Caroline, s'il vous plaît, je comprends la frustration et tout. Je comprends la frustration et tout, mais en revenant toujours aux solutions. Hein. Vous avez, sont tous d'accord, c'est la sélection, c'est la formation, la sensibilisation.
Confiance, bâtir un lien de confiance. C'est pas juste avec le communautaire, jouer au ballon. Là. Ouais. C'est d'être en rue, faire attention aux gens. Quand on a de la construction, là, les policiers restent dans leur auto, ils font du texting. Là. Ouais. Les policiers aux États-Unis, là, ils sont sur le terrain, puis ils disent « Fais attention, laisse-toi pas. » Ils tissent des liens de confiance avec les...
Mais ça, c'est l'esprit. Hein?
Oui, il y a
c'est la responsabilité civile qu'on n'a pas au Québec, parce que personne n'a des responsabilités.
Le policier qui est assis dans la voiture puis fait signe au gars de venir à la voiture. J'ai horreur de ça. Ce gars-là est payé, c'est ta job, bonhomme. Déplace-toi et va le rencontrer, le citoyen. Tu joues le mafieux.
Puis le fait qu'il ne soit pas dans les rues, c'est quoi ça? C'est qu'ils ont peur.
Ils ont peur, bien sûr, ils ont peur.
Alors écoutez, là, on va juste faire une petite pause musicale et après ça, on va revenir pour le mot de la fin. Bonjour, chers auditrices, chers auditeurs. Donc, pour finir avec notre émission d'aujourd'hui, qui était consacrée à l'événement de matricule 728, j'aimerais bien revenir avec vous, Caroline, vers la fin. Qu'est-ce que. On a entendu un petit peu les solutions que vous voulez présenter. Il y a des citoyens, des citoyens qui partagent le même avis que vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à des responsables qui vous écoutent? En tant que citoyen, hein, j'ai bien dit.
Ben oui, c'est ça. Moi, c'est vraiment bâtir le lien de confiance, c'est-à-dire que ce ne soit pas le premier abord avec les policiers, la répression. Puis même quand ils font de la prévention, c'est contre les piétons. Moi, je peux donner 15 000 exemples de fois où les automobilistes ont failli me frapper. Je fais plus de vélo à Montréal parce que je trouve ça trop dangereux. Il y a un problème de circulation, il y a un problème de civisme au Québec. Maintenant, moi, j'en parlais justement avec mes parents qui sont beaucoup plus âgés. Autrefois, des délits de fuite, on ne voyait pas ça. Mmh. Là, il y en a à la tonne, des délits de fuite. Est-ce que c'est parce que notre société est rendue... Tu sais, il y a un problème de civilité, de civisme, là, laisser passer les gens.
L'éducation craquait, ils vont...
Oui, c'est ça. Puis moi, je l'ai vu dans les écoles. Il y a un problème de... Est-ce que toi, tu es une personne, puis tu as une valeur dans la société, puis il faut faire attention à
exactement,
toi?
Exactement,
est-ce que... Ou parce que, oh, ben on s'en fout, tout est gratuit, on va t'envoyer à l'hôpital, puis c'est pas
le
grave.
Le citoyen
puis...
qu'on valeur.
C'est ça, puis que tu as une valeur aussi physique que il faut que tu travailles. Puis eux autres, c'est parce qu'ils sont tellement protégés qu'ils s'en foutent, puis ils ont tellement été toujours protégés qu'ils s'en foutent de ce que les gens vivent, l'insécurité financière, l'insécurité de la nourriture, l'insécurité...
Quand vous dites la personne, vous parlez de citoyen, hein, c'est ça.
Oui.
C'est le citoyen qui est en jeu. Oui. Revenons aussi maintenant, peut-être vous allez dire un mot aussi pour la politique de l'impunité.
Bien, ça, c'est toute la question de la déontologie policière. Il va falloir qu'il y ait quelque chose qui change. Il va falloir qu'il y ait... que ça arrête d'être des policiers qui
on pourrait leur mettre des tickets
sur des policiers, des choses comme ça. Il faut qu'il y ait une instance indépendante. Avec des experts des policiers qui vont expliquer, oui, mais ça s'est passé comme ça pour telle et telle raison, parce que c'est évident qu'il y a des choses qu'on ne sait pas du métier de policier.
Caroline, est-ce qu'il y a un espoir?
Moi, dans mon cas...
Pas dans votre cas.
Non, parce que moi, je suis prête à partir, là, mais...
Partir?
Non, oui. Non.
Partir, ça veut dire
quoi? Il y a des gens qui déménagent.
Oui, mais moi, parce que moi, je trouve qu'on n'est pas une société...
Quitter le Québec.
Oui, mais ça va plus que la police. C'est la question du no-fault, la question que les gens ne prennent pas des responsabilités. Moi, ça me dérange, parce que moi, je suis prête à payer pour des autistes, je suis prête à payer pour des gens qui ont vraiment besoin d'aide, mais quand tu commences à payer pour tout et n'importe quoi, puis du superficiel.
Ça devient
comme... Moi,
lourd,
je trouve ça injuste.
Moi, il y a une chose. Quand tu fais une infraction, tu as un ticket.
Oui.
N'est-ce pas? Tu es puni.
Oui.
Alors, lorsqu'un policier fait une infraction, est-ce qu'il est puni?
Oui.
Non, il n'est pas puni. Mais c'est la ville qui paye le dommage qu'il a causé.
Oui.
Ça veut dire que la ville, les politiciens, les mafieux qu'on a vus, là, qu'on a entendu parler cette semaine, eh bien, ils protègent les policiers qui agissent mal. Et ils payent des sommes exorbitantes. C'est les citoyens qui payent ces sommes-là.
Roland,
c'est l'argent de nos taxes.
S'il vous plaît, Roland, dernière intervention. Est-ce que vous pensez que, comme le matricule, des cas comme le matricule 728, est-ce qu'ils peuvent être écartés de la circulation?
Renvoyer complètement.
Ben moi, je pense qu'elle, c'est une bouc émissaire, parce que je suis sûre que ces cas-là, ben moi, je l'ai vécu. Fait que ça, c'est plate, parce que ça va être elle qui va payer pour tout le monde.
Pour finir, tout policier qui agit avec un autre policier qui le protège dans une infraction comme celle-ci est aussi coupable que la personne qui...
Donc voilà, chers auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Donc merci Roland, merci Caroline pour ces précisions. Donc vous êtes en face du public qui a souhaité réagir lui aussi. Donc merci à notre technicien de Monsieur Joseph Louis Alandi, et merci à Radio Centre-Ville 102.3 FM de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe.
On vous remercie.
Vous, chère auditrice, cher auditeur, je vous dis merci d'avoir suivi cette émission et nous vous donnerons rendez-vous bien sûr la semaine prochaine à la même heure avec un autre épisode de l'abus d'autorité. Roland, s'il vous plaît. Et donc voilà, passez une excellente journée et à la prochaine. ما عندي حتى فرقة مهما يكون الأصل في التاريخ ولا في العرق ولا حكمك القلق روح أقرأ صورة الفلق كل واحد فينا تخلق غير من نطفة ومن علق نغني على الولايات الجهادي الجهادية نجاهد بجهدي باش نحي الجهوية خطك الجاهلية إجابة طبق نون ستوب سور لي زونتي une émission de variété un plaisir à la découverte une émission à savourer sans modération musique information éducation histoire débat Non-stop sur les Antilles. Mardi, 12h30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM. C'est un rendez-vous.
ici Soundproof et
Pascal.
Entre un café et le trafic, Urban Ways, une façon de débuter le week-end.
Tous les vendredis matins, de 8 à 9, où l'on parle actualité, culture, musique dans un vibe chill.
Et recevez les conseils de nos différents chroniqueurs. Alors stationnez-vous.
Fermez la porte du bureau.
Urban Ways, tous les vendredis matins, 8 à 9.
Le Camo PI fait la promotion de la main-d'œuvre immigrante comme solution gagnante au développement du plan Nord.
Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes immigrantes, le CAMO PI, est financé par la Commission des partenaires du marché du travail pour développer des stratégies visant à accroître l'intégration des personnes immigrantes en emploi. Pour obtenir plus d'informations sur nos travaux et recevoir notre bulletin d'information électronique, visitez le camo-pi.qc.ca.
Salsa, reggae, camba, zouk, lambada, bossa nova, fado. Tagamofi, Mala, Tango, Samba, Merengue, Bachata, Jazz, Chansonnette française, Soukous, Rock francophone, Funk, Blues, Techno, Drum and Bass. Toute la musique du monde sur le 52,3 FM. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde Montréal.